L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère. Labourer les circuits courts. Plonger au fond.
Et pour cette première partie de l'EM, nous découvrons l'association Les Compostioles. L'association de Crozon a pour objectif de mieux faire connaître les vertus positives du compost et son écosystème. Pour en discuter, nous sommes avec Élise Auffray et Pierre de Hénin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, ai-je bien résumé les objectifs de l'association ? Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est le compost et ses petites bestioles ?
Alors, ce qui nous intéresse, c'est de parler de quelque chose qui est assez peu connu finalement, parce que le compost, c'est un mot qui recouvre tout un univers, et finalement, on prononce le mot compost un peu rapidement sans savoir à l'intérieur les coulisses et tout ce qui se passe. Et un des enjeux, c'est principalement de montrer ces petites choses, et simplement de les montrer pour qu'il soit possible de s'en émerveiller.
Alors, comment vous faites ça ? Comment vous faites pour nous parler du compost et ses petites bestioles ?
Je crois que depuis le début de l'association, les compostioles, nous, notre stratégie, c'est simplement de montrer. De montrer de telle sorte que le résultat soit beau. Et du coup, de séduire par ce biais-là et de laisser le choix derrière aux gens d'adhérer ou pas, de trouver ça beau ou pas, et après de choisir de changer leur pratique ou pas.
Pourquoi ? Parce que c'est pas considéré comme beau ce qui se passe dans le compost ?
La première impression, quand on prononce le mot compost, on voit des choses qui sentent pas très bon, des choses qu'on n'a pas envie tellement de regarder. Et en fait, et le point de départ de l'association, c'est ça, c'est un projet qui vise à montrer ce qui se passe à l'intérieur d'un compost et la matière en train de se décomposer. La décomposition, c'est pas quelque chose qu'on imagine joli, ni agréable, et pourtant, Élise avait l'idée de montrer l'intérieur d'un composteur, la décomposition en cours, et c'est le premier projet de l'association, c'était le film Illustration Compostage, qui est un film qui se déroule sur 3 mois, où photo après photo, on montre la décomposition, et finalement, le résultat, c'est quelque chose d'étonnamment beau. Et c'était le but de montrer des choses qui permettent d'aborder des sujets qui ne sont pas évidents, d'une manière un peu alternative, en utilisant la sensation, l'émotion.
Parce que cette petite vidéo là que vous évoquez, on peut la voir sur le site internet lescompostioles.com, et c'est en gros un cycle de 80 jours où on part d'un compost avec plein de trucs dedans, en gros les restes, et puis ça devient un terrain fertile pour faire pousser du potiron.
Mais nous, c'était une intuition, c'est-à-dire que on avait envie, c'est parti d'une intuition. On se doutait que le phénomène, le concept, le phénomène était beau, mais on se doutait pas du tout qu'en image, il le serait aussi, en fait. Et le résultat, c'est que le film crée de l'émotion, voilà, du temps qui passe, mais aussi de la visibilité d'un phénomène qu'on ne voit pas se dérouler comme ça. Alors, le film, il a déjà 10 ans, et depuis, il y a beaucoup d'autres stop-motion qui ont été faits sur le même modèle.
En gros, vous avez pris une image par jour, et puis vous l'avez assemblée.
Beaucoup plus que ça.
Ah oui, c'est plus qu'une image par jour.
Beaucoup plus qu'une image par jour. Jour et nuit, en fait, c'était assez compliqué, puisque jour et nuit, on devait se relayer pour prendre des images toutes les demi-heures ou toutes les heures. Ça dépendait un peu des cycles. Ouais. Mais le compost, tous les habitants ayant besoin d'obscurité, on avait besoin pour faire des photos de lumière, mais eux ont besoin d'obscurité, donc il était nécessaire d'ouvrir la boîte qui était dans un petit studio photo toutes les heures pour prendre une photo jour et nuit, pour qu'il y ait une continuité dans l'animation.
Parce qu'à l'image, il n'apparaît pas ce cycle jour-nuit et
Non, pas du tout, puisque tout se passe dans l'obscurité finalement.
Oui,
nous, on met en lumière quelque chose qui est dans l'obscurité.
Et dans cette vidéo, on voit le moment où vous rajoutez les vers de terre, dont on reparlera, parce qu'ils ont un rôle très important. Ils interviennent au bout de combien de temps là, dans ce cycle-là ?
Ils interviennent
dès le début.
Bah oui, tout le temps. Enfin, ouais. Ça, là, si vous voulez, on a filmé une espèce de composteur de
encapsulé dans une petite boîte. C'était une représentation de ce qui pourrait se passer. Ouais. C'est une petite capture de la réalité. Quoi.
Comme un labo quelque part, ou alors une dinette de composteur. Alors, dans la vraie vie, si vous avez un composteur dans votre jardin, il faut mettre des verres dès le début, si vous voulez que ça marche. Et il faut même, et ça, j'en profite d'être à la radio pour le dire, il faut même racheter des verres régulièrement. On conseille tous les 2-3 ans pour avoir des nouvelles générations et qui se développent bien. Donc,
on en reparlera des verres, mais en gros, c'est le moteur du compost, quoi.
l'un des moteurs, et en fait on voit que c'est une collaboration complexe et que c'est un univers en soi avec beaucoup d'acteurs qui interagissent.
Alors, ouais, pour faire un parallèle, je dirais que les lombriques, les vers, oui, c'est vraiment, si on fait un parallèle avec la voiture, ce qui est un peu absurde, mais c'est vraiment la puissance de la voiture, les lombriques, c'est-à-dire la rapidité d'action, l'efficacité, c'est vraiment le nombre de lombriques que vous allez avoir dans votre composteur. Par contre, si vous n'avez pas tous les autres, les acariens, les nématodes, le mycélium, tout ça, qui serait l'équivalent de la structure de votre voiture, en fait, les portes, les roues, les fenêtres, comment on appelle ça, le châssis.
Ouais.
Et ben voilà, c'est ça en fait.
Bah, peut-être qu'un jour on ne comptera plus la puissance d'une voiture en chevaux, mais en lombrique. Ça fait 4 lombriques ma voiture.
Combien de lombriques fiscaux là pour ta déclaration.
Alors comment vous est venue cette idée là d'avoir tout un chapitre là dédié au compost, d'avoir même créé l'association Les Compostioles. Qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer cette association?
Oh, ça c'est Élise. Au départ, son amour des sujets compliqués comme les déchets.
Ouais, non, ça, c'est très très simple. Hein. L'idée, c'est que moi, j'étais dans une école de création industrielle. On nous demandait régulièrement de réfléchir à des nouveaux modèles, à la société, à des nouveaux modèles économiques et tout ça. On était assez nombreux à se rendre compte qu'il y avait des évolutions à donner et des nouveaux modèles. Des solutions à trouver, en tout cas, qu'il y avait des solutions à trouver, et on était nombreux à être conscients des problèmes environnementaux. Et moi, j'ai cherché finalement la voie dans laquelle l'urgence était la plus pressante pour moi. Et je pense que c'était la question des déchets et de l'eau potable, qui sont liés, en fait. Et dans la question des déchets, je me suis retrouvée à dessiner, pour mon diplôme, des toilettes sèches.
D'accord.
Voilà. Qui pour moi était à la. C'est un objet, les toilettes sèches, c'était quelque chose qui répondait autant à la problématique de la.
Déchets qu'eau potable. Quoi.
Voilà, des trop-pleins de déchets que du manque d'eau potable. Voilà. Et partant de là, je suis rentrée dans un réseau qui s'appelle le réseau d'assainissement écologique, qui est un réseau qui recouvre toute la France et une centaine de PME qui travaillent sur l'assainissement écologique. Voilà.
Et toutes les questions annexes, donc celles que tu viens d'aborder, voilà.
Ça s'appelle le RAE, voilà. Et en découvrant cette association, j'ai aussi découvert les joies du compostage, en fait. Voilà, j'ai découvert ça et je me suis dit, en fait, que c'était le truc le plus simple à mettre en pratique chez les gens pour réduire les déchets. Voilà. Parce qu'effectivement, ayant fait un modèle de composteur, un modèle de toilette sèche moi-même, j'ai bien pris en considération, j'ai bien pris conscience des tabous qu'il y avait derrière la problématique des toilettes. Alors que quand on parle du compost, en général, c'était beaucoup plus simple.
Ouais, des déchets alimentaires.
C'est beaucoup plus simple d'en parler
c'est
autour
juste
d'une
des trucs
table.
Qu'on n'a pas mangé en fait.
Voilà, en parler autour d'une table, c'est possible. Aller parler toilettes sèches autour d'une table, c'est
quasiment impossible.
C'est pas pareil.
Ça peut moduler l'ambiance.
Ouais, c'est exactement ça.
Et partant de là, je me suis dit, mais en fait, alors c'est hyper efficace, c'est facile d'échanger sur le sujet, c'est hyper agréable à faire. Allons-y.
Ouais.
Facile, pas toujours évident non plus. Ça reste des déchets, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement absent de nos discussions collectives, en fait, dans notre mode de société. Ça reste quand même les choses dont on veut pas trop savoir ce que ça devient, quoi. Donc il y a quand même mini tabou, quoi. C'est pas aussi limpide que ça, mais.
Oui, mais par rapport aux toilettes.
Oui, rien à voir.
Alors, les Compostioles, l'association a pour objectif de produire des outils aussi à destination de qui?
Nous, on travaille pour les gens qui rencontrent le public. Donc
les collectivités, par exemple,
oui, essentiellement.
Les associations.
les associations, les collectivités, les syndicats, tous ceux qui ont pour objectif de faire de la
gestion des déchets,
de la sensibilisation auprès du public.
Et le point de départ, c'est le mot sensibilisation pris au sens littéral, quoi. Sensibilisation, c'est rendre sensible.
Parce que eux,
c'est vraiment ça, quoi.
Eux manquent d'outils aussi de sensibilisation.
En tout cas, ils ont décrit assez vite, parce qu'on a discuté avec des animateurs, dont certains qu'on connaissait et d'autres qu'on a rencontrés, que les outils dont ils disposaient, c'était systématiquement quelque chose d'assez technique, explicatif ou moralisateur, ou les deux. C'est-à-dire des outils qui ne fonctionnent pas avec le grand public, et ils se trouvaient parfois démunis dans certaines manifestations pour donner envie de s'intéresser, pour accrocher les gens. Et il se trouve qu'on s'est rendu compte que simplement en montrant quelque chose de joli, ça pouvait donner envie de s'intéresser à un sujet, et sans dire « il faut le faire, vous êtes en train de faire n'importe quoi, on montre ». Et c'est tout, et c'est très efficace.
Un des retours qu'on nous a fait de chargés de prévention déchets, ils nous ont dit, mais c'est tellement plus simple, avec un bel outil, parce que les gens, ils viennent à nous. On est sur un stand, on a juste notre bel outil, les gens s'approchent, et là, on n'est pas à les alpaguer, à leur demander de s'approcher
pour
s'intéresser.
Parce que les gens viennent voir, parce qu'il y a des couleurs, du coup, donc c'est une espèce de représentation des espèces, là, en l'occurrence du projet que vous
avez. Alors là, c'est sur le film, parce que le film est utilisé sur des stands aussi, il a été projeté dans pas mal de circonstances. Il l'utilisait comme outil, quoi. Ce petit film, Illustration Compostage, on l'appelle outil entre nous, puisqu'il est utilisé dans une douzaine de départements par les collectivités et tous les acteurs de chacun de ces territoires qui travaillent avec le public pour de la sensibilisation à la question des déchets.
Et pour la mallette, c'est pareil.
Exactement.
On a dessiné une mallette pédagogique pour découvrir les acteurs du compost, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans le compost, et le retour. Une chargée de prévention qui s'en est servie, qui l'a sortie au moment de la distribution de composteurs dans le Cap 6-1, m'a dit c'était un moment hyper convivial, hyper rigolo, où les adultes ils étaient autour de la mallette et ils essayaient tous d'attraper une bestiole pour la toucher, voilà.
Et ça ressemble à quoi alors du coup techniquement ?
Eh ben, on a oublié de l'amener.
Mais ça aurait été dur à montrer.
Ouais.
Mais ça, on n'aurait pas pu la montrer, mais ça aurait été plus facile à décrire pour toi.
Et ben en tout cas, sur la porte d'entrée, c'est encore une fois un peu alternatif, c'est-à-dire que plutôt d'aborder le sujet de front, parler des bestioles, c'est parler d'un aspect qui n'est pas le sujet principal quand on parle de compost, et pourtant qui permet d'aborder tout le reste.
Parce que c'est presque un parti pris artistique d'avoir
c'est le mélange
ces petites
des deux,
bestioles qui sont à la base, le ver de terre, à moins d'être fan du ver de terre par essence, quoi.
On peut devenir fan de ver de terre tous, finalement, quand on commence à s'y intéresser, l'avoir pour animal de compagnie assez vite, c'est le but, quoi.
C'est de leur donner un petit côté fun, en fait, à toutes ces petites bestioles.
C'est au moins la possibilité de l'aborder d'un côté fun, touchant, sensible, et finalement de se rendre compte que c'est de la vie qui participe à quelque chose d'essentiel, et les montrer sous une facette colorée, étonnante, attractive, ça permet simplement de franchir le pas, de s'y intéresser. Et c'est vraiment le point de départ de ces projets en commun.
Fun, je sais pas, c'est sûr que c'est tendre, c'est sûr. De les rendre, de mettre un peu de tendresse dans ces...
Les bestioles, elles font la taille d'une main au minimum, c'est une représentation un peu simplifiée, mais quand même assez fidèle, de minuscules petits organismes comme des acariens, mais là, cet acarien il est tout lisse avec ses petites pattes et c'est le colambole avec ses petits yeux. Il y a quelque chose de très mignon, facile à rencontrer,
stylisé
d'une manière tendre et joyeuse. Ça ressemble à des petits personnages de dessins animés presque, sauf que c'est une manière de commencer à parler de tous les sujets annexes.
Les interactions
et comment fonctionne un composteur, quoi.
C'est un écosystème
un
comme un autre.
Et la décomposition et la matière organique en général. Et puis, on peut aborder tout, la vie, l'univers, et puis la suite découle naturellement. On n'est pas obligé de faire tout.
Il y a qui dans la mallette ?
Dans la mallette, il y a...
Le lombric,
c'est
un peu la rosta de...
Elle a oublié le lombric, mince. Non, c'est la star, évidemment.
La limace.
C'est le plus connu.
La limace, le cloporte.
Colambole. C'est chouette.
Il est moins connu, celui-là.
Moins connu, ouais.
Il a quoi comme tête ?
Le colambole ?
Ouais.
Il a plein de têtes, en fait, il y en a une variété immense, immense.
Non, si, quand même, il a une petite tête.
Une petite tête ronde et des grands yeux, un petit corps, un rond aussi, il ressemble à une espèce de petite fourmi, mais avec moins de...
Pattes.
Il a la capacité de se projeter en l'air.
Et il a deux choses extraordinaires, c'est qu'au centre de son ventre, il a un colophore, c'est une espèce de ventouse qui lui permet de se coller absolument où il veut. Donc il peut se mettre à l'envers, il peut se suspendre, il peut faire ça. Et au niveau de la queue, de sa queue, il a ce qu'on appelle une fourca. C'est une queue ressort extrêmement puissante, qui a une forme un peu de fourche. C'est pour ça qu'on l'appelle la fourca. Et cette fourca lui permet de sauter à une hauteur qui serait l'équivalent de si nous, on était capable de sauter en haut de la tour Eiffel.
En détente sèche.
En détente okay. sèche, c'est ça. C'est-à-dire, il a peur, tac, hop, il saute comme ça en haut de la tour Eiffel.
Et chacun de ces organismes a ce genre de capacité complètement incroyable et science-fictionnelle. C'est minuscule et on ne les voit pas. Et cette mallette permet de les voir et aborde ça sous le biais de ses capacités étonnante, et puis ensuite de l'organisation.
Et ça doit être génial complexe, quoi. À designer pour les transposer de manière rigolote, intéressante.
Ouais, ça c'est le travail d'Élise qu'elle fait très intuitivement et c'est quelque chose qui lui vient dans les doigts assez vite.
Après c'est complexe parce qu'il faut quand même on peut vite se laisser embarquer à avoir envie de faire
sortir du sujet en fait créer un mutant.
Oui voilà, enfin on peut avoir envie de qu'il ait une tête plutôt comme ça ou plutôt comme ça parce que ce serait plus mignon et parce qu'on a plein de films Pixar dans la tête, mais en réalité on est vite rappelé à l'ordre quand on regarde les livres, les gravures, les photos et qu'on fait non vraiment il est comme ça, c'est moins joli mais il est comme ça.
Il faut quand même réussir à produire ces objets à la fin, puisque le faire en maquette, en prototype, on peut faire tout ce qu'on veut, on prend le temps nécessaire, mais ensuite, il faut que ce soit aussi réaliste au niveau du modèle qui puisse permettre de fabriquer ces mallettes et que ça devienne un outil dans la main d'animateur. Et là, c'est une partie un peu plus compliquée qui est de réaliser le projet et de trouver les manières de le rendre concret pour que cette mallette existe, soit accessible et puisse être diffusée et utilisée. Donc ça, c'est en cours. Mais c'est la partie complexe de la gestion de ce genre de projet. Quoi.
C'est ça. Là, on est en plein dans la partie industrialisation de la mallette.
Alors, industrialisation à échelle...
Industrialisation de la mallette à petite échelle. Voilà.
Nationaliser la possibilité de faire des séries. Quoi.
On va faire des petites séries. Et du coup, effectivement, la question de toutes ces formes que j'ai dessinées jusqu'à aujourd'hui, que j'ai modelées, que j'ai moulées, elle va être amenée à évoluer pour effectivement faciliter la production.
On peut les voir en photo sur le site des Compostioles, sur le site internet Les Compostioles, qui est trouvable facilement. Il y a une page sur cette mallette et sur ces bestioles. Et on peut avoir un aperçu de ce à quoi elle ressemble.
Alors, j'avais une question aussi plus d'ordre scientifique, pour le coup, enfin plus d'informations scientifiques. Comment vous êtes mis à jour? Quelles ont été vos sources scientifiques? Comment vous vous êtes plongé un peu dans ce monde à part du compost?
Déjà, Pierre, lui, c'est un scientifique.
Et même alors scientifique, on n'est pas forcément.
Ça veut dire qu'il doute de tout, il vérifie tout. Donc oui, dès
ça,
que moi,
critique, voilà. Exact. Ça aide. Donc, à se documenter de manière sérieuse, quoi.
Moi, je suis tout l'inverse. J'affirme des trucs sans arrêt et j'imagine.
Elle tord la réalité. Pour
je tord la réalité.
Donc on fait une équipe complémentaire.
Et voilà. Et du coup, je fais confiance à Pierre pour me dire stop.
Ouais, c'est sur la démarche en fait pour avoir du sérieux et de la rigueur. Et puis ensuite, il y a des interlocuteurs qu'on rencontre sur la mallette. Il y a un enseignant de SVT qui a travaillé avec nous. Il y a des partenaires qui sont dans différents types de structures. Le RAE comprend des membres d'instituts de recherche et qui permettent de discuter de sujets différents. Donc on recoupe, pour aller très vite, des informations qu'on va collecter nous-mêmes et qu'on vérifie, qu'on soumet au regard de gens qui travaillent avec nous, et puis on a des partenaires qui nous permettent de discuter et de faire en sorte que ce soit du travail sérieux. Et la mallette est accompagnée d'un bestiaire, qui sont des fiches de présentation de chaque bestiole, sur un mode alternatif entre la bande dessinée et le contenu scientifique qui permet de découvrir les super pouvoirs de ces bestioles. Et là, c'est que de la documentation précise, mais mise en page d'une manière étonnante, quoi.
C'est quoi les matériaux, du coup, pour...
C'est une pâte à modeler durcissante avec lesquelles on a fait cette première version de la mallette. Et voilà, c'est une pâte à modeler durcissante. Donc, il y a plusieurs marques, donc ça ne sert à rien. Puis on n'est pas là pour citer les marques. Mais en tout cas, l'avantage qu'elle a, c'est que le résultat, il est léger, tout léger. Les couleurs sont mates, ça fait, et puis aussi c'est doux au toucher. C'est un peu comme de la gomme, mais une gomme qui serait extrêmement légère.
Donc là, chaque bestiole est fabriquée à la main pour l'instant. Ouais. Et ça prend du temps parce qu'il y a de l'exigence du côté d'Élise, toujours sur le rendu final en termes de tous les aspects de sensations que ça va procurer. Et donc, c'est des bestioles fabriquées à la main. Et l'enjeu, c'est de réussir à trouver la manière de les fabriquer, ces bestioles qui plaisent. Et il y a une vraie demande parce que c'est un outil qui a du potentiel. En tout cas, on y croit beaucoup et des gens semblent y croire aussi. De pouvoir les matérialiser, les fabriquer de manière pour faire baisser le prix de fabrication, ouais. Et donc le prix d'achat pour les collectivités et les différents acteurs, puisque là c'est une barrière en ce moment de réussir à trouver l'équilibre entre le fait de fabriquer des choses jolies à la main mais qui prennent beaucoup de temps et qui représentent quelque chose de compliqué et puis une fabrication en série qui permette de les acquérir beaucoup plus facilement et que cet outil serve, parce que c'est quand même le but premier. Élise, elle est acharné là-dessus, c'est de faire en sorte que les outils se diffusent et que les sujets avancent, quoi.
Mais comment on fait justement pour diffuser comme ça quand on a une idée et qu'on souhaite la faire partager?
On va à Radio Évasion, on va chercher des antennes, ouais, qui sont reconnues pour leur sérieux et leur talent. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Et à Radio Évasion, on leur dit aussi que nous on cherche là, enfin on a besoin de 40 000 euros pour industrialiser cette jolie mallette, qu'elle soit diffusée made in Crozon, France, Finistère, ouais, dans toute la France. Et puis je me dis, on ira peut-être en Europe si on en vit.
Ouais, ça c'est aussi juste la parenthèse, en fait, parce que ça fait partie des choses qui sont à la base même pas discutées, parce que tellement évidente, c'est que tout est fabriqué ici, quoi.
Ouais.
Il y aura pas on va pas faire fabriquer des bestioles nulle part ailleurs.
Non, ouais. En fait, c'est aussi pour ça qu'on cherche 40 000 euros, c'est parce que moi ça fait 2 ans que je suis en prototypage de ces bestioles et ça fait un moment que des copains qui travaillent dans l'industrie classique me disent, tu sais, je te fais les 3D, on envoie ça en Chine et dans une semaine t'as tout, quoi.
Mais c'est pas le but,
c'est niette, quoi. C'est
voilà.
Ce serait contre-productif.
Ce serait contre-productif.
Un contresens.
Contraire à la manière dont l'association est née, quoi. Ça n'aurait aucun sens, serait complètement orthogonal, comme dit un copain.
Du coup, nous, ce qu'on a envie là, c'est de travailler avec l'Open Lab de Brest dans un premier temps, en tout cas, pour essayer de trouver un process d'industrialisation de petites séries qui tiennent la route, qui soient fabriquées avec du plastique recyclable en France et qu'on diffuse tout ça en France et que ce soit de l'industrie quand même assez locale et propre.
C'est une série raisonnée, quoi.
En fait, vous nous parlez d'une levée de fonds, comme on dit dans le...
Ouais, ouais.
Ouais, c'est en train de se dessiner, mais en fait...
Il y a plusieurs possibilités, le crowdfunding ou...
Ouais, il y a plusieurs possibilités. En fait, c'est en train d'apparaître que c'est nécessaire de se rendre à cette étape. Élise, elle a la qualité de pouvoir déclencher des projets et de commencer à les réaliser sans avoir forcément anticipé toutes les étapes comme celle-ci. Donc au moins, il y a quelque chose de magnifique qui existe. Enfin, magnifique, c'est mon avis, mais en tout cas, de vraiment... un potentiel étonnant qu'il faut trouver, qu'on doit réussir à concrétiser de manière raisonnable.
Là, pour l'instant, on est en train de demander des subventions publiques. Après, on va demander des aides des fondations. On va se tourner vers les fondations. Et si à la toute fin, on n'a pas de gros sponsors ou de choses comme ça, effectivement, il y a de grandes chances qu'on fasse un financement participatif pour boucler le budget et avancer. Voilà.
Eh bien voilà. Bon bah là, ça va nous faire l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois, peut-être, pour cette levée de fonds. Eh bien merci beaucoup, Élise et Pierre, d'être venus jusqu'à nous pour
nous
parler.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci. Bah,
oui, bien évidemment. Donc les compostioles et les actions sont à découvrir sur votre site lescompostioles.com, actions et donc aussi des outils pour les collectivités. Dire aussi à nos auditeurs d'ailleurs d'aller faire un tour sur le site, ne serait-ce que pour voir le processus de biodégradation d'un compost 80 jours en stop motion.
Time-lapse, c'est une différence. Time-lapse,
ah oui,
c'est vraiment juste des photos, elle a dit stop motion tout à l'heure. Stop motion, on fait bouger les objets, voilà, c'est gros mythe, quoi.
Et lui, il est scientifique.
Ah oui.
Pas de la science.
Bon alors, en time-lapse.
Time-lapse.
Voilà. C'est donc 80 mondes, jours pour suivre comment ça se dégrade et comment ça recrée de la vie pour un beau potiron sympathique. Ben merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère. Labourer les circuits courts. Plonger au fond.